France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Tourelle.
Et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi en direct ou et en podcast. Aujourd'hui, quel sens donner au travail ? Quel sens donner au travail scolaire, puis à son futur professionnel, le métier auquel on rêve, enfant, ado, et celui qui se dessinera au fil des orientations. Quel sens aussi pour le travail éducatif, si mal considéré. Nous en parlerons dans cette heure où nous interrogerons la polysémie et l'histoire du mot travail, histoire des concepts et des idées qui lui sont attachées, histoire sociale et intime. Travailler pour survivre, pour vivre, puisque nous sommes pour la plupart d'entre nous contraints à gagner nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Alors le travail est-il une fin ou un moyen? Mais surtout, sommes-nous condamnés à lutter pour une bonne place dans le monde du travail? D'ailleurs, cette lutte commence-t-elle à l'école? Travailler de 9 à 5 heures, quelle drôle de façon de gagner sa vie, se demande Dolly Parton. Vous savez qu'elle est très très populaire auprès des jeunes aussi. Des horaires d'élèves, me suis-je dit en réécoutant cette chanson. Bonjour Dominique Méda.
Bonjour Louise Touré.
Vous êtes spécialiste des questions sociales et des questions d'emploi, professeur de sociologie à Paris Dauphine PSL, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales.
Plus depuis un an.
Vous l'avez été en tout cas, et autrice, et ça c'est d'actualité, d'un livre intitulé « Le travail, pourquoi travaillons-nous ?» dans la collection « Les grands mots » de Autrement. Donc ça paraît aujourd'hui. Et ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, donc un petit peu en avance, à la noter. J'ai pensé à plein de choses et plein de chansons d'ailleurs en lisant. C'est un ouvrage que je considère comme assez accessible. Il est constitué de chapitres assez courts, mais costaud, hein, Dominique Méda. Costaud en
merci,
référence.
Merci.
Alors, parfois complètement nouvelle pour moi, qui m'intéresse quand même depuis longtemps au sujet, sans être spécialiste comme vous. On parlera donc de Galbraith, un chercheur qui parle de la polysémie du mot travail aujourd'hui, une polysémie très ancienne. Vous appuyez donc sur l'histoire des idées, mais aussi sur des données toutes récentes, attachées à la pénibilité du travail, par exemple, ou à des chiffres sur le travail des jeunes. Ça, c'est intéressant pour nous. On parle à un moment où les jeunes, en tout cas ceux qui sont en terminale générale, sont en train de peaufiner leur lettre de motivation sur Parcoursup. Bonjour Béatrice Thomas-Foussa.
Bonjour.
Vous êtes professeure de SES Sciences économiques et sociales en lycée. Enfin, vous l'étiez jusqu'à tout récemment.
Voilà, jusqu'à
décembre.
Voilà.
Donc on peut dire que c'est récent. Mmh. Membre du comité de direction de l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Donc c'est un peu vous qui expliquez aux élèves ce qu'est le travail. Enfin, j'espère qu'on leur en a parlé avant. Par exemple, on en parle en littérature. Mais c'est vrai qu'on en parle en SES, et d'ailleurs j'ai vérifié, c'est une spécialité qui est beaucoup prise par les lycéens de voie générale, qui est très populaire.
Oui, c'est la deuxième spécialité derrière les mathématiques.
Et donc, pour être dans l'actu vraiment de l'école en ce moment, le 12 mars, c'est la fin de... Enfin, c'est pas la fin de Parcoursup, mais c'est le moment où on donne ses voeux, c'est un palier hyper important, où on se projette vraiment dans le futur, dans les études, mais aussi dans... Parce que ce à quoi pourra ressembler sa carrière professionnelle, ça a été, je pense, un grand travail pour vous d'en parler avec les élèves ces dernières années.
Alors, c'est un travail pour tous les professeurs principaux de terminale qui accompagnent les élèves dans l'orientation. Enfin, notamment, ce ne sont pas les seuls, mais dans le corps éducatif, il y en a plusieurs. Mais c'est surtout un grand moment de stress pour tout le monde, pour les professeurs, pour les parents, pour les élèves. parce que cette plateforme numérique, elle offre une multitude de choix et certains élèves s'y perdent même. C'est très compliqué de mettre en ordre ce dont on a vraiment envie quand on a 17 ans. On a l'impression de fermer des portes. Ça, l'orientation arrive quand même très tôt. Hein, dans la vie de ces jeunes et il y a après on verra comment ça se déroule, mais il y a aussi une très grande brutalité à être sur une liste d'attente. Et à pas savoir tout de suite. Alors il y a des élèves qui ont tout de suite leur vœu qui est accepté, donc là il y a pas de problème. Mais il y a des élèves qui se retrouvent sur des listes d'attente et qui voient leur numéro comme ça. C'est très brutal comme
C'est ce que disent beaucoup de professeurs et de parents. On a souvent parlé dans cette émission du coût psychologique, oui, hein, de Parcoursup. Ça veut pas dire qu'on va pas trouver, mais c'est aussi un coût de projection et cette idée de place dans le monde du travail qui passe par trouver une place déjà dans telle ou telle filière d'études. Dans le livre que vous publiez donc ce 4 mars, Dominique Méda, Le Travail, pourquoi travaillons-nous, vous partez, et ça m'a énormément intéressée, mais c'est un peu pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je vous invite, vous partez du travail scolaire, et les professeurs le font souvent remarquer, le mot travail est omniprésent sur les bulletins. Alors, pourquoi travaillons-nous à l'école, d'après vous? Et vous, vous êtes reposé la question en réexaminant votre passé scolaire, qui est très surprenant d'ailleurs.
Bon, ben pourquoi le terme de travail est employé? C'est aussi un travail des parents quand même. Moi, je croise plein de parents en ce moment qui sont dans l'angoisse parce que vous avez pas prononcé le terme, mais je pense qu'il est très important. Tous les élèves de France sont classés selon une hiérarchie et on sait bien que cette hiérarchie là, des Parcoursup, elle va déterminer tout ce qui va se passer dans le travail. Et on sait bien que l'obtention d'un certain diplôme, donc d'une certaine place dans l'enseignement supérieur, va déterminer tout le reste de la carrière. Donc c'est une pression absolument énorme pour tout le monde.
On peut ajouter que c'est très spécifique, ouais, à la France.
Oui, absolument.
Les études pèsent très lourd dans le destin social des individus.
Ouais, et d'ailleurs, c'est un des points qu'on voit bien dans PISA ou chez tous les spécialistes. Je pense au bouquin de François Dubet, Marie Durubella, L'emprise scolaire, qui montre bien, en effet, comment aujourd'hui la hiérarchie sociale entraîne la hiérarchie scolaire, qui elle-même entraîne la hiérarchie professionnelle. C'est-à-dire que la hiérarchie professionnelle, elle est entièrement calquée sur la hiérarchie scolaire. Et ça, c'est quelque chose en effet de très différent d'autres pays où c'est beaucoup plus souple et puis où il y a une plus grande facilité à changer, plus de passerelles, plus de porosité aussi avec les organisations de travail, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc en effet, les parents commencent très tôt un véritable travail scolaire d'accompagnement de leurs enfants. Et donc moi je me souviens, il y a très longtemps de ça, mes parents qui me disaient, et comme tous les parents, si tu travailles bien, tu auras un bon métier. Le vrai problème, c'est que c'est pas vrai.
C'est que ça suffit pas du tout, en fait, de travailler, puisqu'on hérite, sociologiquement, c'est très connu, on va reciter Bourdieu, d'un capital qui est aussi un capital scolaire, et que c'est très porteur. Et là aussi, la France s'illustre par une forme de reproduction, donc je cite des mots-clés, le contrôle d'une enseignante de lycée, mais on parle aussi de sociologie, évidemment, en SES, puisqu'il y a le mot social, Béatrice Thomas-Foussa. Donc, il y a bien sûr tout ce qui pèse lourd dans la balance. Travail et monde professionnel et monde scolaire sont extrêmement liés, mais je voudrais revenir sur ce sens du travail scolaire, parce qu'il est difficile à trouver pour les enfants, parce qu'on va à l'école aussi pour apprendre. Quand on est enfant, on apprend, et qu'apprendre, c'est pas forcément un travail en soi.
Oui, et donc pourquoi travaille-t-on quand on est petit, quand on est à l'école, quand on s'ennuie? Il y a une belle note de Ninette qui parlait de décrochage cognitif. Les élèves qui sont assis à leur place, et puis ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Donc qu'est-ce qui peut nous exciter à l'école, nous donner envie de faire des efforts et d'apprendre? C'est certainement l'envie de faire plaisir à ses parents, l'envie de faire plaisir à son maître, à sa maîtresse, à son professeur, et puis aussi le sentiment que soi-même, en apprenant, on stabilise quelque chose, on progresse sur cette espèce d'inconnu qu'est le monde quand on y arrive et qu'on est petit. Et ça, je crois que c'est très important. Et d'où l'importance aussi du bon prof, le prof qui va vous donner le bon conseil, vous féliciter, vous accompagner, vous tirer, vous donner des informations que vous aviez pas.
Alors, je ne sais pas si vous avez eu le sentiment d'être une bonne enseignante, Béatrice Thomas-Foussa, mais peut-être au cours de son parcours scolaire, on perd plus ou moins de vue cette motivation. En plus, il faut, on travaille un peu pour ses parents et pour son enseignant, mais je pense qu'au bout d'un moment, la motivation, il faut bien qu'on la reprenne à son compte, à son endroit, pour qu'elle nous porte en nous-mêmes. C'est ce qu'on peut faire en grandissant. Quand ça se passe bien à l'école, on peut avoir d'autres endroits où on apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'école dans la vie. On a parlé de Dubé et du Rubella. D'ailleurs, on les avait reçus. Est-ce que le fait d'évoquer, de parler de ce qu'est le travail en cours de SES intéresse les élèves? Est-ce que ça les interroge? Pas forcément sur eux, ce qu'ils vont faire, mais comme idée. Moi, c'est une question que je trouve extraordinairement passionnante. La question du travail, je n'arrive pas à me souvenir si je m'y suis intéressée avant de travailler moi-même. Alors, quelles sont la nature de vos échanges, ou quelles étaient, avec vos élèves?
Alors, avant toute chose, les SES ne sont enseignés qu'à partir du lycée,
oui,
c'est-à-dire la seconde. Donc, les élèves, ils arrivent avec déjà tout un rapport au travail qui est déjà relativement ancré. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'école. Enfin, quand même une caractéristique en France, c'est que l'école, ça commence à 2 ans, ça dure très très longtemps. Il y a quand même l'emploi du temps, il est quand même bien chargé.
2 ou 3 ans.
Voilà, 2-3 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont déjà appris plein de savoir-être, du comportement, de la façon d'échanger avec les autres.
Certains parlent du métier d'élève.
Voilà. Et il y a déjà eu des orientations qui ont été faites avant même la troisième. Voilà. Donc, quand on a des élèves de seconde, donc c'est sur les 11,8 millions d'élèves. Bon, voilà, c'est une fraction. La façon dont on aborde la question du travail en SES, elle est très intéressante parce qu'elle est complètement pluridisciplinaire. On va mobiliser des recherches de sociologues, d'économistes, de politistes. On a un regard qui souhaite rester très pluraliste. Et donc, lorsqu'on parle du travail, bien sûr, on montre que c'est un facteur de production, par exemple, pour les économistes. Il y a même plusieurs écoles d'économistes, microéconomistes, etc. On va aborder toutes les questions de mutation du travail, par exemple, dans nos sociétés, la féminisation, l'augmentation de la qualification. Donc, tous ces sujets-là qui sont plus ou moins en rapport avec l'économie, on va les aborder, bien évidemment. Mais on va aussi montrer toute la dimension d'intégration sociale que permet le travail, les liens qui permettent de tisser voilà. Donc bien sûr que les élèves ils sont réceptifs et que ça leur ouvre des champs de réflexion qu'ils n'avaient pas forcément eu. Ils sont toujours très intéressés par la découverte des biais genrés, par exemple. Leur mettre en face des statistiques dans lesquelles ils se rendent compte à quel point on reste sur des biais genrés dans la répartition du travail, ça les intéresse, ça les interpelle. Et dans ce sens-là, j'espère qu'on fait un peu notre travail pour améliorer les choses.
En tout cas, pour se questionner, parce qu'il y a beaucoup de pensées contradictoires à l'endroit du travail. Je voudrais qu'on s'arrête sur une petite contradiction extrêmement intéressante. Peut-être, Dominique Méda, vous avez ôté une poutre de mon œil. En tout cas, vous convoquez ce mot, puisque l'étymologie du mot travail, celle qu'on donne la plus habituellement, c'est tripalium, torture. Et pourtant, il y a peut-être d'autres pistes qui permettent un peu de sortir le mot travail de cette idée de souffrance, sans la nier tout à fait, mais aussi parce que on peut en dire des choses positives du travail.
Oui,
et on va en dire aujourd'hui aussi.
Vous me faites penser à notre président Emmanuel Macron qui...
On m'associe rarement à lui, mais continuez, enfin, en tant que... journaliste, femme qui parle d'éducation, président de la République.
Non, mais je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait indiqué qu'il n'était pas du tout content que l'on associe travail à pénibilité et que c'est un petit peu la raison pour laquelle, dans les ordonnances travail de 2017, on a supprimé 4 critères de pénibilité. Mais je reviens à votre question. Donc il y a un débat entre les spécialistes, un débat très pointu, hein, pour savoir si en effet travail, ça vient plutôt de trépalium. C'était pas nécessairement un instrument de torture, mais c'était un instrument pour tenir les animaux, pour les ferrer, ok. Mmh. Ou bien de traps, poutres, ou de trans, ou de traps qui évoquerait plutôt un mouvement. Et donc, voilà, les personnes qui soutiennent cette autre étymologie, en effet, essayent de rompre avec cette idée que le travail, ça serait une souffrance. Moi, ce que je raconte, là, dans le chapitre que je consacre à cette question, c'est que, d'une certaine manière, pardonnez-moi, on s'en fiche, parce que ce qui me semble important, c'est qu'au cours des siècles, le terme de travail a obtenu de plus en plus de valeurs positives, jusqu'à devenir aujourd'hui une valeur hyper positive, hein. C'est le travail, c'est pas seulement moyen de gagner un revenu, c'est montrer aux autres de quoi on est capable, c'est créer, produire, transformer le monde,
accéder à une forme de reconnaissance
sociale. Mais absolument, Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, c'est celui qui se coltine la réalité de la dureté de la résistance du monde qui finalement acquiert la reconnaissance, y compris du maître, etc. Donc c'est ça qui me semble important, c'est qu'au cours des siècles, le travail en effet, qui était méprisé dans l'Antiquité et puis pas très valorisé après, peu à peu, à travers les siècles, va prendre une place centrale, une valeur centrale, et au XXe siècle, hein, dans les sociétés occidentales, ça va encore plus loin, puisque vraiment, ça devient, je dirais pas le centre de l'existence, mais il faut travailler pour être quelqu'un et pour s'affirmer dans la société. Ça devient un élément de l'identité absolument, absolument central.
Donc, il est très intéressant ce mouvement qui part de l'étymologie dans votre réflexion, et c'est aussi passionnant de revenir à l'Antiquité grecque. Vous citez Jean-Pierre Vernant, donc spécialiste du monde grec, pour évoquer la manière dont le travail des artisans grecs est plutôt lié à la nature. C'est pas du tout un travail comme nous on conçoit le travail. Et moi, j'ai pensé à un autre historien, parce que on a parlé du lien éducation-travail, mais longtemps ça a été opposé, parce que l'éducation est complètement arrachée du travail dans les représentations anciennes. Un monde antique, j'y reviens, où le travail est un peu invisibilisé, hein, dans nos représentations, alors qu'il était très central, selon Paulin Ismar.
Pendant très longtemps, enfin, je trouve très souvent, chez les historiens de l'Antiquité, on parle des sociétés civiques grecques, on parle de la cité grecque, et assez spontanément, on se projette dans ce monde, on s'imagine marcher sur l'agora, aller sur l'acropole, sans pleinement réaliser que l'expérience vécue par le monde des cités grecques est absolument indissociable d'une expérience massive qui est celle de l'esclavage. Et que d'une certaine façon, l'esclavage doit être placé au centre de l'histoire des sociétés grecques.
Bim, bam, boum, tout à coup, on se dit, mais on nous en avait jamais parlé comme ça, avant tout ce qu'a produit Paulin Ismar comme pensée. Alors, c'est pas d'hier, mais enfin, ça fait quelques années, mais ça fait pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai pu voir un peu que ça rentrait dans les programmes, hein. Maintenant, on parle différemment de l'Antiquité. Oui. Alors, peut-être pas tous les professeurs et pas tous les élèves. En tout cas, ça s'est arrivé aux oreilles de pas mal de lycéens. Et c'est l'idée du travail invisible, qui vous intéresse tout de même beaucoup, Dominique Méda, et on va en parler. Alors déjà, parler de ce travail comme central, c'est quelque chose aussi parce qu'on est concernés nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on produit, par exemple, en tant que parent, en tant que mère, tout simplement. Je peux parler pour moi, mais je peux parler pour, je pense, la plupart des parents et des mères. Un travail invisible qui est extrêmement peu valorisé. Alors vous posez plusieurs questions. C'est comment déjà le rendre davantage visible, et est-ce qu'on doit le compter dans l'idée de production de richesse?
Oui, je reprends un travail qu'on a fait avec ma collègue Florence Janicatrice. Ça nous avait beaucoup intéressé. Il y a quelques années, en 2008, un rapport sur les limites du PIB. Et à ce moment-là, la commission dite Sen-Stiglitz-Fitoussi avait regardé la question du volume du travail domestique et est-ce qu'il fallait ou pas l'intégrer dans le PIB.
C'est du travail éducatif aussi, hein. Je crois qu'il faut l'ajouter parce que c'est domestique,
tout à fait.
Mais c'est élever les enfants. C'est,
absolument.
C'est aussi, leur lire des livres, les accompagner à l'école, à des activités, c'est très fondateur.
Et on s'était demandé pourquoi tout ça avait été exclu du produit intérieur brut. Hein. Notre indicateur absolument de référence, notre fétiche, c'est le produit intérieur brut. Le travail domestique n'est pas dans le produit intérieur brut. Et donc, on s'était dit d'où ça vient. Et donc, on a regardé, on est revenu aux années 30. Et alors, c'est passionnant parce que dans les années 30, il y a un économiste américain qui s'appelle Simon Kuznets, qui crée un ensemble, un agrégat qui s'appelle le revenu national. Et il dit, alors, est-ce que je mets le travail domestique là-dedans ou pas? Et puis, il réfléchit, il dit, non, je vais pas le mettre parce que bien sûr, c'est important, mais en même temps, ça modifierait trop nos calculs. Et puis quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il appelle ça le travail fait par les housewives. Donc on se dit, ok, s'il ne l'a pas mis, c'est parce que c'est un truc qui est fait par les femmes et donc bien sûr, ça n'a pas de valeur. Et alors on a suivi tout au long des différents systèmes de comptabilité nationale, la manière dont les comptables nationaux essayent de se débarrasser de cette question brûlante et à quoi on arrive à la fin. On arrive au fait qu'on va en faire un compte satellite. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer ça dans le produit intérieur brut, mais on va le ranger à côté. Donc, ça appartient à la production, c'est bien de la production, mais ce n'est pas de la production qui compte dans le produit intérieur brut. Et à la même époque, les années 30 dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y avait une économiste hongroise, je crois, qui, elle, avait commencé à comptabiliser vraiment ce travail domestique et à essayer de lui donner une valeur. Ça, c'est super intéressant, je trouve.
C'est intéressant de voir les calculs aussi, les modes de calcul. Est-ce qu'on met le même prix pour toutes les heures de travail domestique passées ou est-ce qu'on compte un coup la cuisine, un coup garder ses enfants
et est-ce qu'on le fait
faire plus spécialisé encore.
Est-ce qu'on le fait faire par une personne qui fait tout ou par un cuisinier spécialisé, une éducatrice, etc. Auquel cas la valeur est bien sûr plus grande.
Une blanchisseuse. Alors le PIB c'est quand même quelque chose qu'on enseigne. Béatrice Thomas Foussa, à quel moment vous parlez de ce travail plus ou moins invisible, et on va continuer sur cette notion parce qu'on n'a pas tout dit.
Donc, dès la seconde, on présente le PIB, donc tous les élèves de seconde qui découvrent cette discipline. Et justement, l'intérêt de DSES, c'est de leur faire découvrir que l'indicateur, il a été construit, qu'il est le résultat d'une convention, et donc il a fallu faire des choix. Alors, il y a des choses qu'on arrive à comptabiliser, il y a des choses qu'on ne sait pas comptabiliser, donc on ne va pas les compter, notamment donc le travail domestique, mais que par ailleurs, on comptabilise aujourd'hui, on ajuste une partie de l'économie informelle et rentrée dans le PIB. Donc il y a des choses, quand on a vraiment envie de les calculer, c'est marrant, on y arrive.
Mais par exemple, quoi ?
Voilà. Dans l'économie informelle, par exemple, ils font une estimation de ce qui passe à travers, enfin, qui passe à travers les mailles du filet de la fiscalité, par exemple, babysitting ou les trafics de contrebande de cigarettes, ce genre de choses. Ils font une estimation et donc ils le réintègrent. Le travail des élèves de seconde, lui, il n'est pas comptabilisé, par exemple. Donc ça, c'est pas. Donc, bon voilà. Surtout leur faire comprendre que c'est un indicateur qui est le résultat d'une évolution historique, et donc il peut continuer à évoluer. Et je pense que c'est le message le plus important qu'on peut leur faire passer. À ce propos, j'ai une anecdote qui est assez amusante que j'ai retrouvée en regardant le travail de Margaret Marmani. C'est de savoir que sur le calcul de la population active, jusqu'en 1954, l'INSEE comptabilisait toutes les personnes qui travaillaient dans une exploitation agricole, hommes, femmes, à partir du moment où ils n'avaient pas déclaré un autre métier, eh bien, ils étaient comptabilisés comme population active. À partir de 1954, si on ne s'était pas déclaré une activité, on n'était plus compté. Donc, ça a ôté 800 000 femmes de la population active. Moi, je trouve que c'est un exemple quand même qui est assez frappant.
Ça compte, la comptabilité.
On a 800 000 femmes, d'un seul coup, qu'on a considéré comme ne faisant plus rien.
Ce qui a été un immense problème pour les retraites des agricultrices.
D'où la question, qui décide de ce qui compte ? C'est la question qu'on aime beaucoup poser avec mes collègues. Qui est-ce qui décide de ce qui compte?
Mais Dominique Méda, faut-il compter ce travail éducatif oui. et domestique?
C'est une très bonne question. Il faut le compter, je crois. Mon sentiment personnel, c'est qu'il ne faut pas le rémunérer. Ma crainte, ce serait qu'on le rémunère, c'est-à-dire qu'on le compte, qu'on le rentre dans le PIB et qu'on dise « Ah bah, puisque c'est du travail, on va le rémunérer ». Et ma très grande crainte, c'est que on revienne en arrière sur la division des genres et des rôles, hein, c'est-à-dire que les femmes rentrent à la maison avec leur petit salaire ménager et qu'on rompe ainsi avec quand même 50 ans d'émancipation qui ont été quand même assez réussis, même si on s'est pas achevé, évidemment.
Alors, l'idée de valoriser peut-être le travail gratuit doit faire encore plus son chemin, puisque c'est du travail et qu'il est parfaitement gratuit, je peux en témoigner. L'idée, c'est aussi, je le disais avant en citant Paul Henri Smart, que le savoir... Alors, ça concerne pas du tout que l'Athènes antique s'oppose en quelque sorte au travail. Le savoir et le travail intellectuel s'opposent au travail salarié bassement productif. Évidemment, tout est productif. Pour en parler, vous citez Adam Smith. Donc, on fait un grand saut historique au XVIIIe siècle avec une conception qui est, je pense, encore vivace, hein, que l'instruction, c'est pas fait pour tout le monde. Que l'instruction, alors aujourd'hui on passe à d'autres âges de l'enfance et de l'adolescence, c'est pas pour tous les jeunes qu'on peut se mettre au travail plus tôt. Évidemment, quand on pense au XVIIIe siècle et encore plus au XIXe siècle, ce siècle du travail dont vous parlez, Dominique Méda, on pense à des époques où les enfants travaillaient à partir de 6-7 ans.
Oui. Il y a les magnifiques textes de Villermé ou de Jeanne Buret ou
oui,
de
parce
d'Engels.
Des enquêtes
absolument des enquêtes autour de 1840 qui montrent l'énorme quantité d'enfants de 5 6 7 ans qui bossent dans les premières usines quoi.
Alors, on pense aussi au poème de Victor Hugo qui est encore énormément étudié dans les écoles travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre. Mais cette opposition parce qu'elle est très forte aussi.
Oui.
C'est on fait des études pour ne pas travailler.
Ou on fait des études pour que le travail soit le moins pénible possible, soit le plus intéressant possible, soit le plus épanouissant possible. Alors, je suis bien d'accord, il y a bien très longtemps, et alors au pire dans l'Antiquité, cette opposition très forte. Dont Aristote, par exemple, va opposer complètement le loisir et la païdéia, qui est la caractéristique des hommes libres, versus, en effet, les artisans qui travaillent et qui donc n'ont pas le droit de voter. Hein, ce ne sont pas des citoyens parce qu'ils travaillent et que quand on travaille, on est dans un rapport de servitude avec les autres. Donc il y a cette énorme opposition, effet, entre éducation, loisir d'un côté, et le loisir et éducation, c'est très proche.
Et la païdéia, c'est l'idée de l'étincelle intellectuelle, de
la culture.
Feu qui brûle en nous, de l'appétit, l'appétence pour les savoirs et d'un développement.
Tout à fait. Et c'est donc c'est la culture et c'est pas fait pour produire quelque chose. C'est une activité qui a sa propre fin en soi. Versus le travail, donc dans le travail, on est esclave d'autrui, on est esclave des autres. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, l'artisan, il ne crée rien. C'est ça qui est super intéressant chez Vernon. Vernon nous montre.
Donc on revient à Athènes.
Tout à fait. Que dans l'Antiquité, on a une conception du monde qui n'a rien à voir avec la conception d'aujourd'hui. On n'a pas une nature en face de nous qu'il faudrait mettre en coupe réglée. Pas du tout, on est intégré dans la nature. Et ça, je crois que c'est très important pour réfléchir sur le travail et sur les rapports entre travail et nature. Et l'artisan, il fait rien du tout, c'est pas un créateur. Il fait juste descendre une idée dans une matière. C'est tout.
Alors, pour revenir à cette idée du travail oppressant et dégradant, je pense qu'on peut citer un certain nombre d'œuvres littéraires qui sont plus ou moins étudiées à l'école. Évidemment, moi, je pense à Martin Eden parce que cette histoire de blanchisserie m'a beaucoup marqué à un moment. Martin Eden, donc, dans ce fameux roman de Jack London, travaille dans une blanchisserie. C'est extrêmement pénible. L'établi de Robert Linhart, je ne sais pas si c'est très très lu à l'école, c'est un des bouquins pour moi les plus édifiants sur...
Il avait une série sur France Culture d'ailleurs, je crois l'an dernier ou il y a deux ans.
Excellente. C'est vraiment un grand texte. Et puis, ce livre dont j'ai appris récemment qu'il était parfois étudié à l'école, de Joseph Pontus à la ligne, dont je vous propose un extrait qui va nous restituer beaucoup de réflexions sur le travail.
Athènes a choisi l'agora comme naissance d'une idée du monde, et c'est une nécessité. La prison a choisi la prison que Foucault a choisie. La lumière, la pluie et le vent ont choisi les îles. Marx et les prolétaires ont choisi l'usine. Des mondes clos, où l'on ne va que par choix, délibéré. Et d'où l'on ne sort, comment dire ? On ne quitte pas un sanctuaire indemne.
On ne quitte pas un sanctuaire indemne.
On ne quitte jamais,
vraiment la tôle.
On ne quitte pas une île sans
un soupir.
On ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel. La débauche. Quel joli mot. Qu'on n'utilise plus trop, sinon au sens figuré. Mais comprendre, dans son corps, viscéralement, ce qu'est la débauche et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson. Mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après 8 heures de ligne. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre.
Vous écoutez Être et Savoir et vous êtes bien sur France Culture. Aujourd'hui, nous parlons du travail. Quel sens donner au travail et comment en parler aux plus jeunes, aux enfants, aux adolescents qui étudient aussi ce qu'est le travail. On l'a entendu, par exemple, en SES et qui se projettent peut-être dans un futur professionnel, puisque c'est à ça qu'on se destine le plus généralement, quelle que soit son orientation scolaire, orientation dont on a dit combien elle était importante et combien elle était liée au monde du travail avec nos invités. On peut donc continuer à parler de la pénibilité du travail. J'ai dressé une espèce d'opposition entre le monde scolaire qui protégerait en quelque sorte du travail pénible, un travail dont on entendait avec cet extrait de À la ligne de Joseph Pontus paru en 2019. On redit, c'est un extraordinaire texte, poème qui dit la dureté du travail. Mais la dureté du travail, c'est pas seulement une réalité du 19e siècle, on en parlait, Dominique Méda. C'est une réalité d'aujourd'hui. Et vous le rappelez dans ce livre, Le travail, publié chez Autrement.
Oui.
Aujourd'hui, le travail, et peut-être notamment le travail des jeunes, est pénible en France, et particulièrement en France.
Tout à fait. On a de très bonnes enquêtes sur lesquelles s'appuyer pour parler de cela, pour en parler objectivement. C'est une enquête qui s'appelle « Conditions de travail » qui est faite par la DARES, la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques du ministère du Travail, et une enquête européenne qui nous permet de faire des comparaisons. Je donne deux chiffres. Premier chiffre, 37% des salariés disent qu'ils ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à la retraite, de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. C'est un chiffre énorme. Et vous savez combien sont les jeunes ? Ils sont 60% à dire ça. Les jeunes qui sont dans un emploi disent que ils sont 60% à dire qu'ils ne se sentent pas capables de tenir dans ce travail jusqu'à la retraite. Et l'adresse vient de publier, là, il y a quelques semaines, un papier précisément sur les conditions de travail des jeunes. Ça me fait très plaisir parce qu'on entend tellement de choses idiotes sur les jeunes qui veulent pas travailler et tout ça, qui montre que, quel que soit leur niveau de diplôme, qu'ils soient très diplômés ou peu diplômés, les conditions de travail des jeunes sont pires que celles des autres tranches d'âge. Alors vous me direz, oh ben c'est normal, ils sont jeunes, ils sont capables, mais c'est quand même très 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 embêtant.
Je ne sais pas si j'aurais dit ça, mais ce que j'ai lu dans votre livre, Dominique Méda, c'est que les jeunes qui pensent à des reconversions à 3 ans du début de leur carrière professionnelle sont extrêmement nombreux. 36% d'entre eux, c'est énorme.
C'est le CEREC qui nous montre ça. 36% des jeunes.
Alors, vous citez plein de sigles, en fait,
pardonnez-moi. C'est des instituts très sérieux. Voilà c'est ça que je veux dire.
Qui produisent des statistiques sur le travail en particulier.
Exactement.
Les jeunes.
Et donc, en effet, 36% des jeunes veulent changer de métier. Ça veut dire que Ça veut dire soit qu'on leur a pas bien expliqué le métier qu'ils ont choisi, je mets plein de guillemets à choisi, soit que ils ont été poussés vers ce métier alors qu'ils en voulaient pas. Et ça, on l'a beaucoup vu, vous savez, après le Covid, quand on a parlé de grandes démissions. En fait, il y avait aucune grande démission, aucun refus du travail. C'était juste des personnes qui profitaient du post-Covid pour quitter un emploi avec des conditions de travail très difficiles pour avoir un emploi avec des conditions de travail moins difficiles. Mais donc, oui, c'est une réalité, cette pénibilité. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'il y a en France un déni sur cette réalité. Les gens vous disent, bon, écoutez, en France, quand même, on un pays très développé, très civilisé, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Il y a des métiers avec des postures douloureuses, des troubles musculo-squelettiques, des contraintes émotionnelles, notamment chez les femmes. Bref, ça, on a tous les chiffres qu'il faut là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut d'urgence ouvrir ce chantier-là. Et si on a eu tellement de personnes qui se sont élevées contre la réforme des retraites, hein, des millions de personnes dans la rue, c'est précisément parce que les conditions de travail étaient déjà peu supportable pour un grand nombre de personnes qu'elles ne se voyaient pas du tout continuer encore plusieurs mois ainsi.
Alors, il y a d'autres chiffres comme ceux des accidents mortels au travail. C'est vrai que ça, qui sont assez importants en France. 764 en 2024. On est sur des chiffres plus élevés que chez nos voisins européens, par exemple. Mais pour parler de malaise dans le travail, j'ai pensé aux professeurs, en fait, j'ai pensé aux enseignants. Je me tourne vers vous, Béatrice Thomas-Foussa. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu monter aussi dans l'émission qui existe depuis un certain nombre d'années, Être et Savoir ou Avant Rue des Écoles. C'est cette idée que les enseignants n'étaient pas heureux dans leur travail. C'est une profession qui est extraordinairement touchée par ça, dans le premier degré, dans le second degré.
Oui, alors, je voudrais changer le regard qu'on a un petit peu et se mettre à la place de l'élève. C'est-à-dire qu'on parle du rapport de l'école et du travail. L'élève, lorsqu'il regarde ses professeurs, finalement, il voit aussi les personnes qui travaillent. Et donc, ils sont pas déconnectés de la société. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une succession de réformes qui ont été décidées de façon très verticale. Donc, je pense à la réforme Blanquer, par exemple. Pour
ça, c'est la réforme du lycée.
Du lycée, donc qui a fait complètement éclater le groupe classe.
Moi, je pourrais la défendre, mais c'est pas totalement mon rôle, mais enfin, bon, il y a beaucoup à dire et on pourrait faire des débats.
Non, mais c'est la façon dont ça a été fait et surtout les modifications qu'il y a eu. Ils avaient supprimé les mathématiques, ils ont remis les mathématiques, ils avaient mis le baccalauréat au mois de mars, après ils l'ont remis au mois de juin. Ben, c'est ça.
Donc c'était tous les ans, ça change.
Les décisions étaient imposées de façon verticale. On n'est plus dans une société qui accepte ce genre de choses quand même. On est dans une société qui a besoin de démocratisation. Enfin, en tous les cas, qui aspire à de la démocratisation. Et surtout avec des professeurs qui ont aussi un avis en fait sur la façon dont on doit transmettre. Donc ça a pu alimenter un sentiment de maltraitance, de frustration chez un certain nombre de confrères et de collègues. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres, hein, puisque le nombre de candidats au concours pour devenir professeur, il a été divisé par 4 depuis 1997. Il y a des départs volontaires, y compris depuis 2013, y compris de titulaires. Donc voilà. Donc il y a des signes de malaise en tous les cas. Et les élèves qui regardent leur professeur, encore une fois, même si c'est complètement involontaire et inconscient, hein, ils le sentent. C'est comme le stress dont on parlait tout à l'heure avec Parcoursup. Même si on n'a pas envie de montrer qu'on est stressé, ça va se sentir quand même.
Ouais, les adolescents d'aujourd'hui sont confrontés à un monde adulte quand même qui est lui-même en prise avec l'âpreté du monde du travail. Et dans le même temps, je crois que c'est important d'en parler, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent au futur du travail qui disent aux jeunes de ne plus faire d'études. Alors, ça peut être dans la Silicon Valley, les patrons des headtech disent, voilà, après tout, nous, on a fondé notre entreprise dans un garage, c'est une grande mythologie de la Californie. Ou alors, en France, Laurent Alexandre, qui est médecin au départ, et Olivier Babou, qui ont publié un livre, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA, parce que c'est bien le sujet. C'est publié chez Buchet-Chastel. Je vous propose d'écouter, pour que les auditeurs se rendent un peu compte, un extrait d'une interview de Laurent Alexandre.
Aujourd'hui, nous ne disons pas « glandez, ne faites rien », bien au contraire. Nous disons simplement « la plupart des cursus » sont devenus inutiles et contre-productifs. Quand vous avez un master de sociologie aujourd'hui, c'est pas une ligne positive sur votre CV. C'est une tâche. Il faut l'effacer.
Ah bon ?
Parce que tous les employeurs savent que ça ne correspond à rien et que ce
Donc
sont des
faut,
formations
faut
qui n'ont aucune...
De sociologie, si je vous
La plupart des cursus, effectivement, sont contre-productifs en sociologie.
Waouh.
Oh.
Ça va pas vous plaire, mais en même temps.
Non, mais quel scandale, franchement, oui, d'oser dire des choses pareilles et de titrer un livre pareillement. Moi, je trouve ça hallucinant. Monsieur, il est narque, HEC, etc.
Donc lui-même a fait beaucoup d'études. Mais est-ce qu'on peut pas se poser la question du fait d'être remplacé, par exemple, pour des métiers qu'on dit de col blanc, mais pour les femmes aussi principalement, qui font des métiers 9-to-5, des horaires de bureau. Qui vont être peut-être remplacés par une forme d'automatisation et que dans ce cas-là, bah, autant faire un métier qui nécessite peut-être moins de formation, mais qui sera plus pérenne.
Enfin, d'accord,
Je pose la question simplement, mais vous voyez bien.
Elle est très provocante, mais...
Je suis là pour ça.
Non, mais bon, le diplôme continue à protéger et à être, entre guillemets, rentable. Donc, je trouve ça assez irresponsable de dire, comme d'ailleurs une partie de l'extrême droite, hein, de dire aux gens qu'il faut plus faire d'études. Je pense qu'il faut continuer à faire des études, pour une double raison, hein, apprendre des choses et pour acquérir des compétences et des qualifications, c'est-à-dire des connaissances qui sont reconnues et utiles pour exercer un métier. Et puis, pour être un bon citoyen, dire pour apprendre des choses sur l'histoire de notre pays, pour savoir quand voilà l'histoire, la géographie, la morale peut-être. Moi, j'étais très pour quand Vincent Payon avait parlé de cours de morale et de citoyenneté. Bref, donc ça c'est très utile. Maintenant, bon, il n'y a pas tant de ça, tant de personnes qui font des masters de sociologie. Je sais pas toujours, c'est la pauvre sociologie. Ça commence très mal en général dans les pays. Autoritaire, on commence toujours à remettre en cause la sociologie. Mais bon, la sociologie, c'est une manière de regarder le développement de la société de manière critique, donc je pense que c'est utile. Alors, je pense qu'il faut un petit peu de sociologie dans toutes les études, un petit peu de sciences politiques, un petit peu de philosophie, et que, très certainement, il faut aussi développer les cursus d'ingénieurs, il faut que les filles fassent plus de maths, les métiers techniques, etc. Je ne crois pas qu'il faille arrêter de faire des études. Voilà. Simplement, il faut sans doute que notre système éducatif soit plus proche de ce qui est en train de se passer dans le monde du travail qui bouge de façon extrêmement rapide. Que ça soit en matière de transition écologique, qui malheureusement ne va pas assez vite, et de transition numérique qui là va très très vite.
Mais que faire du travail étudiant, enfin éducatif, qui ne paye pas ? Parce que des bacs plus 5 aujourd'hui qui arrivent à des métiers très mal rémunérés, et après tout, même quand on est par exemple avocat, bah, on démarre pas très haut, alors
oui.
On est promis à de bonnes rémunérations, mais on peut travailler dans des postes administratifs catégorie B où, voilà, malgré ces longues études, on ne va pas avoir une rémunération à la hauteur. Est-ce que ce n'est pas un peu plus simple à dire ? Et d'ailleurs, même quand on enseigne, les enseignants disent qu'on a un haut niveau d'études par rapport à notre rémunération. Donc, des exemples, on en a des millions.
Oui, mais après, c'est une question d'orientation. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est que les étudiants, jusqu'à un point très avancé, y compris en master, ne savent pas très bien ni ce qu'ils veulent faire, ni ce qu'est ce monde du travail. Ils le connaissent hyper mal. Et donc, ça, c'est des choses que vous répétez souvent dans votre émission. Il faut une meilleure porosité, une meilleure information sur ce que sont exactement les métiers, leurs avantages et leurs inconvénients, leur rémunération, les conditions de travail, etc., etc. Et de manière à ce qu'ils puissent faire leur choix de façon beaucoup plus raisonnée, éclairée.
Mais comment connaître un monde du travail aussi morcelé ? Ben, c'est une question. On sait que les stages de troisième, de seconde, c'est très socialement situé. On accueille pas mal de stagiaires à la Maison de la Radio. Hein. On en entend souvent dans notre antenne, on va en entendre un tout à l'heure. Mais évidemment, ça a été vu comme une clé pour mieux faire connaître les métiers. Ça marche, c'est cette histoire de stage. Je vais vous demander, Béatrice Thomas-Foussa, en tant qu'enseignante.
L'éducation nationale prévoit explicitement des périodes donc, de rencontres entre les élèves et le monde le monde professionnel. Il n'y a pas qu'en secondaire, ça commence pour certains élèves dès le collège, puisque même en quatrième, il y a sur la section SECPA par exemple, c'est l'enseignement général et professionnel adapté, donc des élèves en difficulté. Dès la quatrième, ils vont avoir une période de stage. C'est une section où on a plus de 68% d'élèves d'origine sociale défavorisée. Et en troisième, oui, ils vont avoir donc la plupart, ils vont encore avoir une semaine de stage. Ils sont 800 000 élèves. Après, on a aussi la filière qu'il faut pas oublier, la filière professionnelle.
Je vais en reparler. Lycée.
La filière professionnelle, donc il y a 180 000 élèves en seconde professionnelle, donc qui ont une orientation plus spécifiquement donc tournée vers la vie active. Eux, ils font 18 semaines de stage, de formation. Alors en seconde. Sur la filière générale et technologique, le stage, il va y avoir 2 semaines de stage, donc qui est décidé pendant la période des épreuves de baccalauréat, comme ça ils sont pas dans les lycées, ça arrange un peu tout le monde. Donc là cette année, ça va être du 15 au 26 juin par exemple, et ils vont avoir donc des séquences d'observation. Mais dans les faits, comment ça se passe? Vous avez une partie des élèves de seconde dont les stages vont être trouvés par le réseau familial, les proches, donc ça veut dire dans le même milieu social. Et donc ils vont effectivement trouver des stages dans des milieux où il y aura même peut-être le père, la mère, quelqu'un qu'ils connaissent en tous les cas, qui sera dans le service. Et ils ont souvent des stages qui sont très intéressants, mais ils sont surtout privilégiés entre guillemets parce que on va leur montrer un peu les coulisses, on va essayer de leur montrer des tas de choses, de les intéresser, de répondre à leurs questions, on va faire attention à eux, etc. C'est pas le cas de tous les élèves. Donc l'Éducation nationale met en place il existe une plateforme qui permet à tous les élèves d'avoir un stage à la fin, qui s'appelle Un élève, un stage. Mais bien sûr, c'est pas la même chose lorsque finalement le stage il a été obtenu par ces voies-là, pas par le réseau. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, je pense que c'est important de l'avoir en tête. On a 433 000 élèves de seconde dans la filière générale technologique. Dans le public, on a 28,6% de ces élèves qui sont issus de milieux favorisés. Et on a le même pourcentage, 29,6%, qui sont issus de milieux défavorisés. Je vous parle du public. Dans le privé, c'est pas du tout la même répartition. Dans le privé, c'est 53,7% favorisés, 10% défavorisés. Donc, bien évidemment, le milieu social, il va être différencié, les stages vont être différenciés, l'expérience sera pas la même du tout. du tout. Donc, sur le papier, on a un stage. On a le même mot. Tous les élèves font un stage de 2 semaines.
Mais finalement,
c'est pas la même chose.
Déjà rentrer dans les inégalités propres au monde du
milieu professionnel et les biais genrés dont je parlais tout à l'heure, on va les retrouver aussi. Ouais.
Et puis c'est pas structurant en fait. 2 semaines, ça suffit pas. Non. Plus cette question de discrimination sociale, comme vous dites. Mais il y a des pays, je pense aux pays nordiques ou à la Suisse, où la porosité est beaucoup plus forte et organisée structurellement entre le système éducatif et les organisations de travail, qu'elles soient publiques ou privées. Donc où les étudiants, très tôt, connaissent mieux l'ensemble de ces métiers.
Parce qu'ils rencontrent des professionnels ?
Oui, et parce que les partenaires sociaux sont sans doute beaucoup plus impliqués, les branches, dans la confection de ces matrices de correspondance, en quelque sorte.
Mais d'ailleurs, on voit bien que pour les stages, puisqu'à Radio France, c'est industriel, le nombre de stagiaires qu'on reçoit, j'ai déjà mes stagiaires de seconde pour la fin de l'année, mais voilà, j'en accueille moi-même et j'en croise plein dans les couloirs, mais s'en occuper, en fait, c'est un travail en soi. Donc, moi, je peux mettre, ajouter à la liste du travail éducatif gratuit que je fournis, le fait de, avec Avril Ventura, de prendre en charge des stagiaires, de leur expliquer notre travail. Bon, on adore.
C'est ça.
Évidemment, ça c'est très intéressant
votre,
à faire.
Ça n'est pas inscrit, en quelque sorte, dans votre
mais on
votre
est,
fiche de poste.
Encore une fois, ravis de le faire. Alors, pour revenir à ce lien école-travail, il est extraordinairement travaillé, je sais le cas de le dire, par le gouvernement actuel. En fait, Emmanuel Macron tient beaucoup à l'apprentissage. Je pense qu'il faut en parler dans cette émission. On a de nouveau une ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est Sabrina Roubache, parce qu'il y a eu un petit changement dans le gouvernement en janvier. En février même. Et ça change, ça revient. Mais il y a toujours pour le gouvernement, pour le président, je pense surtout,
oui,
l'idée de mettre en avant l'apprentissage comme à la fois une solution au chômage des jeunes et en même temps, peut-être, l'idée de bien s'acclimater et de bien comprendre pourquoi on étudie et de faire des études en ce sens, en favorisant ces liens. Et pourtant, vous le critiquez, Dominique Méda.
C'est parce que je lis les études qui en parlent. Je pense notamment aux travaux de l'OFCE, de Bruno Coquet ou d'autres personnes qui montrent petit un que en allant vers ce million d'apprentis, en même temps, on a une dépense qui a explosé, 25 milliards, la dépense pour l'apprentissage, donc quelque chose d'énorme. Et surtout, le vrai problème, c'est pas tellement ça, parce que si c'était dirigé vers les bonnes personne, ça serait très bien. Le problème, et ce que l'on lit, c'est que c'est principalement dirigé vers des étudiants qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire, c'est dirigé vers l'enseignement supérieur, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur.
C'est professionnel et c'est bac plus plus.
Oui, et c'est pas dirigé vers les niveaux en dessous du bac, qui, eux, en auraient besoin. Et par exemple, ça ne touche pas du tout les NEETs, c'est-à-dire tous ceux, cette grosse partie de la population qui n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et ça, c'est quand même très embêtant, parce que normalement, l'apprentissage, ça devrait être principalement dirigé vers ces personnes qui ont du mal à trouver de l'emploi. Et qu'il faut qu'on aide à trouver des qualifications, à construire des qualifications.
Parce que l'obsession aussi des gouvernements, c'est le chômage de masse, enfin plus ou moins de masse, mais bien installé oui, en France, à la fois dans les réalités chiffrées et je pense dans les imaginaires collectifs.
Oui.
Quand on a grandi comme moi dans les années 80, on avait en ligne de mire que le chômage, c'était une grande menace. Ça a peut-être aussi énormément modifié la vision du travail, mais pour ce qui est des élèves de lycée pro, je me tourne quand même vers vous, Béatrice Thomas-Foussa, même si c'était pas spécialement vos élèves. Là, il y a quand même tout un enjeu et du stage, parce qu'en fait, c'est très difficile de trouver des stages,
oui,
et des alternances, où il faut aussi trouver les entreprises qui pourraient avoir recours à des alternants et bien s'en occuper.
Oui, enfin, il n'y a pas que le lycée professionnel, encore une fois, dès la troisième, il y a aussi les CAP. Hein. On n'a pas parlé du tout, mais les CAP, en deux ans, qui permettent de faire, CAP de boulangerie, qui ont aussi des stages. Et il y a aussi des CAP en apprentissage, en centre de formation d'apprentissage. Ça existe aussi, qui sont une préparation à l'entrée immédiate dans la vie active. Les employeurs sont relativement satisfaits de ce type de formation. J'ai discuté avec le syndicat de la boulangerie qui disait qu'ils étaient satisfaits de cette façon de fonctionner. Après, c'est vrai qu'il y a ces problèmes d'orientation qu'on pose toujours la même chose. Faut pas le faire trop précocement.
Et après, dans toute la diversité des métiers. Parce que la boulangerie, c'est pas le travail en usine, c'est pas cariste. Enfin, voilà, il y a des différences, même si il y a de la pénibilité. Oui. Je voudrais, parce que l'heure tourne tellement vite, je voudrais conclure avec mon dernier stagiaire de troisième qui s'appelle Gaspard Carino Querelle. 14 ans, je voudrais vous demander de l'écouter. Il a lu votre livre, Dominique Méda. J'ai trappé sa fiche parce qu'il m'en avait longuement parlé. En fait, il a des rêves plein les poches. Quand il était en stage avec moi, il a passé pas mal de temps à FIP parce qu'il adore la musique. Et je lui ai fait parler de sa vision du travail.
Le travail, je le vois comme une étape de la vie qui permet de découvrir un nouveau monde qui est vraiment très différent de l'enfance. Et je pense que le travail, c'est aussi une manière d'être avec les personnes, de pas forcément être tout le temps concentré sur les résultats, parce que beaucoup de personnes, moi je trouve, à mon jeune âge, quand je le vois un peu dans la société, c'est vraiment quelque chose qui est lié au stress, qui est lié à des choses assez négatives. Mais il y a aussi des personnes qui associent ça à une question de bonheur et quelque chose qu'ils aiment faire au quotidien. On peut ou pas passer par cette étape, mais moi je pense que c'est une belle étape de la vie, parce qu'on peut, faire quelque chose qu'on aime vraiment. Mais je trouve qu'il faut vraiment dissocier le fait de travailler pour avoir des résultats ou de travailler pour être bien soi-même. Le travail dans le milieu de la musique, il est différent un peu du travail dans d'autres milieux, comme, je peux citer la finance, qui est un milieu très, très strict. Quand je parle avec des gens qui font de la musique leur métier, je vois vraiment cette passion et ce truc-là de vraiment faire son travail parce qu'on aime faire son travail. Parce que même si la musique peut parfois être un milieu qui n'est pas forcément très riche économiquement ou financièrement, c'est un milieu où les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, où vraiment ils essaient d'être le plus créatif possible. Et c'est pas un milieu où la compétition règne, même si parfois dans certains milieux, bien sûr, comme dans les grandes écoles, il y a toujours de la compétition. Mais je trouve que c'est vraiment un métier qui donne de la joie, et que quand on le fait parce que ça vient vraiment du fond du cœur, c'est vraiment quelque chose qui peut être très beau. En tout cas, moi, dans ma famille, depuis que je suis petit, on montre que la musique, c'est vraiment un très bel outil pour s'exprimer. Et voilà, donc j'ai toujours vu ce métier comme quelque chose de très beau et de passionnant.
Et la question du salaire, t'y penses ?
À l'école, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de gagner de l'argent pour avoir une belle vie, entre guillemets, etc. Je trouve personnellement que l'argent, c'est pas ce qui va emmener à quelque chose de joyeux. Je pense que la joie, elle vient plus par si ce qu'on fait, on l'aime. C'est-à-dire si on aime son métier, je pense que c'est quelque chose qui va conduire très rapidement à une vie heureuse ou des moments joyeux avec les personnes avec lesquelles on travaille. Je pense que ça vient vraiment de la passion.
Alors, Gaspard veut devenir acteur. Nous, on a parlé de la dureté, de l'orientation, du monde du travail, des conditions de travail des jeunes. Et Gaspard, 14 ans, nous parle de rêve, d'être avec les autres. Alors, c'est spécial, les carrières artistiques, c'est très dur aussi.
Ouais, mais c'est magnifique, ce qu'il nous dit. Merci, Gaspard. Mmh. Non, mais parce que...
Mais c'est ça, la vie aussi, non ?
Mais bien sûr, il parle à plusieurs reprises de joie, de bonheur. On voit bien le plaisir, le métier passion. Et donc, moi, j'ai envie en réaction, de dire que le travail, en fait, au service de quoi voulons-nous le mettre ? C'est ça qui me semble la question importante. Au service de quel projet ? On peut le mettre au service de la destruction du monde, de la compétition, et on peut le mettre au service de l'amélioration du monde, de la réparation du monde, des autres, du lien avec eux, et de l'expression de soi.
Mais ça, c'est un programme politique, ou c'est pour tout le monde, ou c'est à l'échelle individuelle ? Comment est-ce qu'on fait pour passer de « Ok, je vais me trouver un travail où je pourrais faire tout ça » à ça devrait être le destin des individus, des travailleurs, travailleuses, pour parler comme Arlette Laguiller, pour ceux qui s'en souviennent, mais j'aime bien cette expression. Est-ce que ça doit être pour tout le monde ?
Vous avez vu comme les candidats aux présidentielles qui commencent à se déclarer ne mettent absolument pas la question du travail au centre de leur programme, sauf Bruno Retailleau, un petit peu, qui nous dit que la valeur travail est importante et qu'il faut punir ceux qui ne travaillent pas assez ou qui ne veulent pas travailler.
Et ça peut rester au centre avec cette actualité géopolitique ?
Non, mais il faut absolument souhaiter que les candidats mettent au centre de leur débat cette question du travail. Qu'est-ce qu'ils veulent faire collectivement du travail ?
Ça reste au centre des préoccupations de l'APSES, en tout cas l'association des professeurs d'économie, Béatrice Thomas-Foussa, puisque vous organisez pour le printemps de l'économie, c'est en mars tout bientôt, le 17, un état des lieux des rapports de force au travail, et le 20 mars au campus Condorcet lors du printemps des humanités, une conférence avec Daniel Linhart sur la précarisation du travail salarié. Elle est cité d'ailleurs dans le livre de Dominique Médat, dont je rappelle qu'il sort aux éditions Autrement, collection Les Grands Mots, et son titre « Le travail, pourquoi travaillons-nous ?» Et je remercie ceux qui travaillent pour cette émission Être et Savoir. Avril Ventura, adjointe à la production, Camille Mathy à la réalisation et Guillaume Ficheux à la prise de son. Aujourd'hui, la semaine prochaine, nous parlerons des élections municipales. Votez pour l'école.